C'est bientôt, je pense qu'on est pas mal arrivé, puis on a une bonne partie de notre équipage. Marc et Denise, puis Marc, nous entendez-vous comme il faut maintenant?
Moi, j'ai vu.
C'est
Oui,
mieux?
c'est correct. On a trouvé le
Ah, ok,
bon
ça marche.
bouton. Jeanne!
Salut! Salut, Francine!
Merci, les cuisinières! Merci, Jeanne, c'était très bon!
Ouais.
Ouais.
Sauvé par la cloche.
Oui!
Ouais. Ouais. Ben c'est ça, on a un frère de Cloridome qui est décédé mardi passé, Denis Lachance. Fait qu'on est allé à Cloridome samedi pour la funéraille. Puis c'est ça, après ça, Francine et Daniel sont restés à Saint-Anne-des-Monts pour la réunion du dimanche.
Ça
OK,
fait
je
plaisir.
pense qu'on a pas mal notre équipage. S'il y en a d'autres qui s'ajoutent, on les ajoutera par après. Ils pourront s'ajouter. Ça fait que peut-être on va commencer avec un mot de prière. Ensuite, on va regarder. On est rendu au jour des expiations. On a fait les trompettes. On a fini la fête des trompettes, le rassemblement d'Israël dans son pays en vue du jour des expiations, le jour où ils vont être purifiés, qu'ils vont être réconciliés avec leur Messie, vont reconnaître leur Messie, ils vont être purifiés pour entrer ensuite dans la prochaine fête qui va être la fête des tabernacles. Donc, on va s'arrêter pour l'instant. On va peut-être mettre en sourdine tous les micros. Puis, ensuite de ça, on va lire la parole de Dieu. Donc, on commence par la prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois dans ta bonté de nous permettre de pouvoir regarder ta parole et de pouvoir s'instruire dans les choses que tu as institué de longue date. Mais toi, Seigneur, on sait que tu as en vue tout le temps parce que toi, tu es dans l'éternité. Mais tu veux nous enseigner des choses et Seigneur, on veut connaître ces choses-là pour pouvoir t'aimer, pouvoir te servir, pouvoir jouir vraiment du salut merveilleux que tu as accompli pour nous dans la personne de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et notre Dieu, on te prie pour les familles qui sont éprouvées. On pense à Fernand Saint-Louis qui a perdu sa femme. On te demande, Seigneur, de le fortifier, de l'encourager. Notre sœur Lucie Lachance aussi, qui a perdu son mari, toute leur famille, de les préserver, de les consoler, Seigneur. Merci encore une fois pour ta parole, puis on te demande ton aide par ton esprit ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on va lire pour commencer Lévitique au chapitre 23. C'est le chapitre où on voit les sept fêtes de l'Éternel. Et on est rendu maintenant dans le chapitre 23 au verset 26. On va lire les versets 26 à 32 de Lévitique 23. Verset 26, l'Éternel parla à Moïse et dit, on a dit que ça introduisait les fêtes, le dixième jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes dès le soir du neuvième jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. On va lire maintenant dans le chapitre 16 du Lévitique, qui est vraiment la description du jour des expiations. C'est la loi sur la fête annuelle des expiations. Donc, le chapitre 16, on va lire au complet, à partir du verset 1 jusqu'au verset 34, Lévitique, chapitre 16, verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt sept fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée et sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple. Il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime expiatoire. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une loi perpétuelle au septième mois, le dixième jour du mois. Vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble ce soir. Donc, ce jour-là, le jour des expiations, c'était un grand jour en Israël. C'était vraiment, parmi les fêtes, c'était vraiment un jour spécial parce que dans les autres fêtes, c'était un temps de réjouissance. Mais ici, il fallait s'humilier, il fallait vraiment être dans la tristesse à cause de la repentance qu'il devait avoir dans ce jour-là. C'était aussi le jour où ils entraient le souverain sacrificateur, on se souvient, le souverain sacrificateur entrait une fois par année dans le lieu très saint. Et c'est ce jour-là, le jour des expiations, que le sacrificateur, pour faire l'expiation pour ses péchés, pour le sanctuaire, pour le peuple, il pouvait entrer une fois par année seulement le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans la présence même de Dieu, dans l'endroit du temple où qui était appelé le lieu très saint. On sait que le temple, quand le temple était ou le tabernacle, quand c'était le tabernacle, la porte était vers l'Orient, faisait face à l'Orient. À gauche de la porte, il y avait l'autel d'airain où on offrait les holocaustes, on brûlait les holocaustes. Ensuite, quand on entrait dans le lieu saint du temple, eh bien, à droite, il y avait la table avec les pains de proposition. À gauche, il y avait le chandelier d'or qui éclairait le sanctuaire. Et devant, après, il y avait un voile, un autre voile où on ne pouvait pas entrer parce que au-delà de ce voile-là, c'était ce qu'on appelle le lieu très saint, le saint des saints. Et devant le voile, juste avant d'entrer dans le lieu très saint, il y avait un autel d'or qu'on appelle un autel des parfums où on brûlait des parfums. Dans le livre de l'Épître aux Hébreux, on nous dit que cet autel-là était à l'intérieur du lieu très saint. Mais l'autel était de ce côté ici du voile, mais c'est quand dans l'Épître aux Hébreux, on parle de c'est un brasier parce que le souverain sacrificateur prenait un brasier, il mettait des charbons ardents de l'autel des parfums et il entrait avec le brasier en mettant le parfum pour entrer dans la présence de Dieu le jour des expiations. Ce parfum-là était l'odeur de Christ allait devant lui pour pas qu'il soit tué dans la présence de Dieu à cause de la sainteté de Dieu. Donc, c'était comme ça que ça se passait. Puis là, il rentrait dans le lieu très saint ensuite pour faire l'expiation, pour mettre le sang sur. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance avec le couvercle de l'arche. Et le couvercle de l'arche, on appelle le propitiatoire, c'est pour faire la propitiation. Et il y avait des chérubins qui étaient aux deux extrémités du couvercle de l'arche et leurs ailes se touchaient, puis ils touchaient les murs aussi. Donc maintenant, le souverain sacrificateur, une fois par année, entrait dans le lieu très saint pour faire l'expiation. C'était le jour des expiations. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot expiation veut dire l'action de réparer les fautes pour enlever la culpabilité. Donc, c'est l'action de réparer les fautes qui ont été faites pour enlever la culpabilité. C'est pour ça que toujours devant Dieu, on est coupable à cause de notre péché, mais l'expiation enlève ou répare les fautes jusqu'au point d'enlever la culpabilité. C'est pour ça que maintenant, on a un libre accès, nous, dans le sanctuaire, parce que l'expiation a été faite pour nous par le Seigneur Jésus-Christ, qui est le sacrifice parfait, puis qui enlève notre culpabilité. Donc, on peut se présenter devant Dieu dans cette justice-là que Dieu nous a revêtue. Donc, comme j'ai dit, le jour des expiations, c'était une grande journée dans l'année pour les Israélites, hein, parce que c'était le jour où, avec les sacrifices, avec le sang, dans les sacrifices des animaux, dans l'Ancien Testament, le péché n'était pas ôté. Le péché était couvert. Il était couvert en attendant le vrai sacrifice, que tous ces sacrifices-là représentaient un seul sacrifice, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ qui lui est parfait. Mais comme il est dit dans Romains, le sang des boucs, le sang des taureaux ne pouvait pas enlever le péché. C'est seulement le sang de Christ qui peut enlever les péchés. Mais à chaque année, Le peuple se présentait, les hommes, trois fois par année, se présentaient à Jérusalem, mais en cette occasion-là, au septième mois, ils se présentaient et l'expiation était faite pour eux, le sacrifice, et ça couvrait le péché pour une année. Puis à chaque année, il fallait répéter le jour des expiations. Mais on sait, comme on a dit, toutes ces fêtes-là ont en vue un jour particulier où le peuple d'Israël sera réconcilié. Ça va être le vrai jour des expiations pour eux en tant que nation. Parce que, comme on a dit, les quatre premières fêtes avaient une application pour Israël et une application pour l'Église, mais les trois dernières fêtes, on a dit qu'il y avait seulement une application pour. Ben, on peut en faire une application spirituelle pour nous dans notre salut, on le fait, on va le faire encore ce soir, mais le vrai jour des expiations se réfère à Israël, après qu'ils auront été rassemblés et Dieu va parler à eux, pas individuellement, mais en tant que nation, parce que présentement, les Juifs, en tant qu'individus, peuvent être sauvés de la même façon que nous, individuellement, mais ça, c'est un jour d'expiation pour la nation, pour tout le peuple d'Israël. Donc, mais on se demande pourquoi une deuxième fête ici, un jour d'expiation, parce que, comme on se souvient, la Pâque, c'était la rédemption, parce que l'agneau qui était immolé à la Pâque, c'était pour la rédemption au premier mois, ou ce qui était devenu le premier mois de l'année, parce que c'était le début d'une vie nouvelle pour eux. Mais pourquoi qu'on leur vient encore au septième mois pour une fête, le jour des expiations? Ben, c'est parce que ça nous parle du fait qu'Israël serait égaré. Ça nous parle du fait que Dieu savait qu'Israël s'égarerait, même si il avait passé par la Pâque, il avait reçu la rédemption. Il savait que le peuple allait s'égarer, puis le jour des expiations avait en vue la restauration dans le futur d'Israël, parce qu'on sait que maintenant sont dans l'aveuglement depuis 2000 ans, et un peu plus que 2000, dans 2000 ans, oui. Puis, qui sont. Mais ce jour-là a en vue le vrai jour des expiations. Israël l'ont fêté à chaque année. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire parce qu'ils n'ont pas le temple. Mais quand il y avait le temple, ils pouvaient faire ce jour-là. Mais c'était en vue d'un jour particulier qui va arriver durant la tribulation. Puis on va voir ça. Donc, c'est pour la restauration dans le futur. Le Seigneur savait d'avance qu'Israël se détournerait de lui et qu'il aurait besoin d'être purifié de ses iniquités. Puis, vous savez, le Seigneur, c'est comme il nous met à l'épreuve. Il met l'homme à l'épreuve. C'est pour ça qu'on a les dispensations. On a parlé des dispensations. Les dispensations, c'est une mise à l'épreuve de l'homme pour montrer la faillite de l'homme. Montrer que l'homme faillit toujours dans toutes les épreuves que Dieu lui donne. C'est toujours la grâce de Dieu qui restaure ce que l'homme perd à cause de son péché. Mais Dieu voulait montrer la faillite de l'homme pour démontrer sa grâce en leur donnant le jour des expiations. On va aller dans Romains 11. Gardez votre doigt dans Lévitique. Mais on va aller dans Romains 11. On va aller au verset 30 à 36 pour montrer ici qu'est-ce que le but de Dieu dans ces choses-là. On sait que toutes les choses que Dieu fait ont toujours un but. C'est jamais par hasard, c'est toujours planifié, c'est toujours avec un but à atteindre. Mais dans le chapitre 11 de Romains, au verset 30, Romains 11 au verset 30, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, vous savez, on n'est pas mieux qu'Israël. Si Israël ont désobéi, ben nous autres aussi on a désobéi. Mais dit de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Pourquoi? Ben, pour faire miséricorde à tous. Donc, c'est la miséricorde de Dieu. Le salut nous vient de la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Et puis là, il nous dit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Vous savez, quand on va être au ciel, toute la gloire va revenir. Ça va être merveilleux. On va être dans un état extraordinaire. On ne peut même pas s'imaginer qu'est-ce que ça va être d'être au ciel avec le Seigneur pour l'éternité, avec notre corps, notre âme, notre esprit, que dans la communion parfaite avec lui. Mais on va tout avoir le même chant. Ça va être, c'est par la grâce de Dieu. C'est à cause de sa miséricorde. Puis, il y aura pas, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, il n'y aura personne qui va se glorifier. Toute la gloire va aller à Dieu. C'est ça son but. Mais, vous savez, le jour des expiations, dans un sens, ça ressemble aussi parce que ces choses-là sont toujours à l'image. C'est la rédemption de Dieu qui est dépeint dans ces choses-là. Puis, le jour des expiations, c'est comme la conversion d'un individu. Quand un individu se convertit au Seigneur, c'est comme le jour des expiations. Même si le jour des expiations a en vue le peuple d'Israël, mais c'est quand même une image pour nous du salut d'un individu. Puis c'est pour ça que la première des choses pour un individu, pour être sauvé, ben il faut qu'il reconnaisse sa perdition. Il faut qu'il reconnaisse sa faillite devant Dieu. Il faut qu'il reconnaisse qu'il est perdu devant Dieu, puis qu'il peut réclamer absolument rien devant Dieu. Par ses œuvres, il peut réclamer rien. Donc, c'est la repentance. Ça nous amène à la repentance. C'est une tristesse selon Dieu qui nous amène à la repentance pour reconnaître notre état de perdition devant Dieu, puis pour nous amener à la grâce. Donc, afin qu'on puisse détourner complètement notre confiance de nous-mêmes pour mettre entièrement notre confiance dans ce que le Seigneur, le moyen de rédemption que Dieu a pourvu dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 20, au verset 21, il dit, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, ça c'est très important. Il y a des gens, des fois, qui passent par-dessus la repentance, puis ils pensent avoir la foi. Mais on ne peut pas avoir la foi. C'est sûr que la foi, ce n'est pas de croire que Dieu existe, parce que c'est l'insensé qui dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais ce n'est pas de croire que Dieu existe. Mais comment qu'on pourrait croire en salut si on n'a pas passé par la repentance? C'est très important qu'on connaisse la repentance, qu'on reconnaisse notre besoin de se repentir, de ne plus regarder à nous autres parce qu'on ne mérite rien, mais de se tourner entièrement sur la miséricorde de Dieu pour recevoir sa grâce. Donc, il faut se reconnaître perdu, ressentir notre besoin de salut, comme le geôlier à Philippe, quand il est entré tout tremblant, puis a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ben, il faut arriver à cet état-là. Puis, vous savez, c'est la pire étape, l'étape la plus dure à franchir pour un pécheur, c'est de se reconnaître perdu devant Dieu. Vous savez, des fois, on se demande pourquoi des gens suivent des religions d'hommes. Ben, une religion d'hommes, c'est moins dur pour l'orgueil, parce qu'on n'a pas besoin de se repentir. On fait juste ajouter à notre bonté, on fait juste ajouter à ce qu'on est déjà, puis ça fait notre affaire. Dans notre orgueil, on est bien content de ça. Mais la pierre d'achoppement de l'Évangile, c'est qu'il faut se repentir. Puis ça, se repentir, c'est vraiment l'antidote de l'orgueil. L'orgueil, c'est le péché. Le péché, c'est l'orgueil. Ça a commencé par l'orgueil. Satan qui voulait devenir plus haut que Dieu, plus haut que l'Éternel dans son orgueil et qui a entraîné l'homme aussi parce qu'il lui a dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu. Donc, c'est encore là l'homme, c'est dans l'orgueil aussi qui a continué. C'est pour cela qu'il faut absolument, dans le moyen de rédemption que Dieu a pourvu, il faut absolument être brisé dans notre orgueil. Il faut vraiment en venir à la repentance. Puis quand on vient à la repentance, qu'on reconnaît vraiment notre incapacité de se sauver par nos moyens, eh bien c'est là qu'on peut vraiment mettre notre confiance dans un salut qui nous vient de Dieu, qui nous est donné gratuitement par Dieu. C'est comme cela, la réalisation de notre perdition. La foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui va vraiment produire un changement dans nos vies. Le vrai salut, va produire un changement dans nos vies. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui manque cette étape-là. Puis quand il manque cette étape-là, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits parce que c'est pas, ils n'ont pas connu la vraie foi qu'ils avaient besoin de mettre leur confiance entièrement dans le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Mais souvent, ce salut-là va produire un changement. Paul pouvait dire, j'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Mais la réalisation pour nous amener à cet état-là, qu'on est prêt à recevoir le salut de Dieu, souvent, Dieu il va le faire par l'épreuve. Puis les gens qui n'ont pas d'épreuve, ils ressentent pas leurs besoins. Puis quand on leur parle de l'Évangile, ah, j'ai pas besoin de ça, puis ils pensent que c'est une béquille, ils pensent que c'est pour les faibles, parce qu'eux sont forts. Puis, mais quand on reconnaît vraiment là, ce qu'on a besoin, Dieu le fait souvent dans l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, qu'est-ce qui arrive? On vient au bout de nous-mêmes. Quand on vient au bout de nous-mêmes, ben, on doit rechercher ailleurs. Vous savez, il y a des gens qui disent pas croire en Dieu ou qui s'inquiètent pas des choses de Dieu. Puis quand qui arrivent près de la mort, là, ils se tournent vers Dieu. Hein? C'est des gens qui ont été dans des grandes détresses, là, en péril sur la mer ou dans des choses comme ça, qui ont dit, Seigneur, si tu me sauves de ça, je vais te servir. Il commence à se tourner vers Dieu parce que vers qui, comme le chant qu'on chante, vers qui se tourner quand la source des larmes est à vie? Puis le Seigneur utilise des grandes épreuves. Souvent, on raconte dans les témoignages, c'est à travers des épreuves que des gens en sont venus à reconnaître leurs besoins ultimes du salut de Dieu. Puis, parce que tant qu'on n'est pas dans ces grandes épreuves-là, on pense qu'on est suffisant. On n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin d'un autre. Puis ça, c'est encore à cause de notre orgueil. Vous savez, on a de la difficulté à aller demander de l'aide à quelqu'un, parce que c'est s'avouer vaincu quand on demande de l'aide. Hein. Mais c'est la même chose avec Israël. Le jour des expiations va venir, parce que là, ils ne sont pas repentants maintenant. Ils ne sont pas parce qu'ils essayent de s'organiser, et puis pourtant, ils ont été éprouvés, mais dans la tribulation, qui est appelé le temps de trouble de Jacob, ça va être un temps tellement troublé pour Israël, pour Jacob, qu'ils n'ont jamais eu un temps aussi dur que la tribulation qui va venir sur eux. Je disais au guide, quand on était en Israël, il y a le musée de l'Holocauste, puis il n'a pas voulu entrer dans le musée de l'Holocauste parce que il nous a expliqué de l'extérieur qu'est-ce qu'on allait voir à l'intérieur, mais il ne voulait pas entrer parce que ça rappelait trop les souffrances de la Deuxième Guerre mondiale sur le peuple d'Israël. Puis moi, je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, les Juifs ont souffert beaucoup durant l'Holocauste, mais j'ai dit, c'est rien à comparer à ce qui s'en vient pour Israël dans la tribulation. Là, ils vont souffrir vraiment. Mais pourquoi est-ce que Dieu se plaît à faire souffrir? Ben, vous savez, plus on a le cou raide, plus on est orgueilleux, plus ça va faire mal. Parce qu'avec Dieu, vous savez, moi je dis souvent ça, on ne fait pas broncher Dieu. On ne peut pas faire broncher Dieu et le standard. Puis ce que lui exige, il faut passer par ce que lui exige. Mais plus on est dur, plus on est dur. Je me souviens d'avoir entendu un témoignage, c'était un bûcheron, c'était un tough, un gars qui était tough puis fort. Puis le Seigneur, il l'a emmené tellement, il dit qu'il était rendu à genoux en pleurant à côté d'un arbre, tellement l'oppression sur lui, puis il s'est converti comme ça. Mais c'est pas que Dieu se plaît à nous voir souffrir, mais il veut atteindre un but. C'est ce qu'il va faire avec Israël. Vous savez, là, ça fait 2000 ans qu'ils ne se repentent pas de leur péché. Ils ne se sont pas repentis quand le Seigneur était sur la terre. Ils ne se sont pas repentis depuis. Je parle en tant que nation, pas individu, parce qu'il y a des individus qui se sont repentis. Mais Dieu va amener une telle souffrance aux autres parce que c'est un peuple au cou raide, Israël. C'est un peuple qui est dur. C'est un peuple qui a un cœur dur. Le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Puis là, il va les emmener dans une grande tribulation. On appelle ça la grande tribulation. Ils vont être persécutés à un tel point que si le Seigneur ne venait pas pour les délivrer, finalement, c'est comme si Satan met l'effort ultime pour réussir à les anéantir complètement. Ça s'en vient, on voit ça maintenant, là. On voit que les gens commencent à vouloir se débarrasser d'Israël parce que dans leur tête, si on se débarrasse d'eux autres, on règle tous les problèmes dans le Moyen-Orient, puis toute la Terre est concernée par le problème au Moyen-Orient. Mais comme quelqu'un a dit, si Israël sera exterminé, ben les Arabes, les musulmans, ils se battraient entre eux autres parce que c'est ça qu'ils font toujours. Mais dans la pensée du monde, c'est que c'est comme si Israël qui est la pierre pesante pour les nations. Puis elle devient vraiment une pierre pesante pour les nations. Mais à travers ces choses-là, le Seigneur va les faire passer à travers la tribulation pour les emmener au pied du mur, pour les emmener au point où ils vont reconnaître leurs besoins. Le Seigneur Jésus leur a dit, pendant qu'il était sur la terre, dans Matthieu 23, verset 39, il leur a dit, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est dans l'ultimatum qui va en venir à ce point-là, ils n'auront plus le choix, ils vont crier à leur Messie de venir, parce que s'il ne vient pas, c'est terminé pour eux. Ils vont périr tous. Mais c'est pour ça que le Seigneur dit que si ces jours n'étaient abrégés, même les élus ne seraient pas sauvés. Puis même les élus, ils ne seraient pas sauvés. Pourquoi? Quand il parle des élus, il parle du peuple d'Israël. Puis dans les jours de détresse qui vont venir, si ces jours-là n'étaient pas abrégés par la venue du Seigneur Jésus-Christ comme leur Messie, ils ne seraient pas sauvés. Même les élus ne seraient pas sauvés. Donc, contrairement aux autres fêtes, là, les autres fêtes, c'était des jours de réjouissance. Hein? Quand ils se rassemblaient à Jérusalem, c'était des jours de réjouissance. Mais celui-là, ce n'est pas un jour de réjouissance. C'est un jour où ils sont appelés à s'humilier. On l'a vu dans Lévitique 23, là, puis dans Lévitique 16, ils devaient humilier leurs âmes. Puis si quelqu'un ne s'humiliait pas devant l'Éternel, il était retranché de son peuple. C'est important, là, c'est toute la nation, ce n'est pas des individus, c'est la nation complète qui doit, dans ce jour-là, qui va complètement s'humilier devant l'Éternel. On sait que dans la tribulation, il va y avoir les deux tiers qui vont périr. C'est seulement un tiers. Donc, ceux qui ne s'humilieront pas vont périr, mais ceux qui vont rester, qui vont être préservés, eux, ils vont s'humilier dans leur grande détresse. Dans le Lévitique, au chapitre 23, verset 27, il dit, vous humilierez vos âmes. Puis, dans le verset 29, il dit, toute personne qui ne s'humiliera pas sera retranchée de son peuple. Donc, c'était très important qu'ils soient dans l'humiliation, qu'ils reconnaissent leur péché. Ils devaient offrir les sacrifices consumés par le feu au verset 27. C'est ça, ce qui représente le sacrifice de Christ. Donc, ils devaient offrir leur sacrifice qui était consumé par le feu. Ça représente le sacrifice de Christ. On va aller dans Hébreux 13 pour voir un peu, parce que l'Épître aux Hébreux, c'est un beau commentaire sur le service lévitique, les sacrifices et toutes ces choses-là, les sacrificateurs. Avec un commentaire comme Hébreux, on peut s'y fier parce que c'est un commentaire inspiré. C'est un merveilleux privilège d'avoir un commentaire inspiré par le Saint-Esprit. Donc, au chapitre 13 d'Hébreux, au verset 10 à 14, qu'on lit, il dit, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché. Donc, c'est les sacrifices qui sont offerts le jour des expiations. Il dit, n'ont pas le droit de. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, il fallait que le Seigneur Jésus soit mis en dehors de Jérusalem. Parce que les sacrifices ils préfiguraient le sacrifice de Christ. Donc, Christ est souffert hors du camp, en dehors du mur de Jérusalem. Et il dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Puis l'invitation qui nous vient, sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Parce que le fait qu'il ait été mis en dehors, Jérusalem, c'est la capitale religieuse du monde. C'est là où Dieu a placé son nom. Mais on voit qu'il a été mis en dehors de la religion. Il a été mis à l'extérieur. Puis c'est un opprobre. Puis nous aussi, on est appelés à sortir pour aller vers lui, sortir de tous les systèmes religieux pour aller vers le Sauveur. Vous savez, les gens, ils s'attachent à des religions. Ce n'est pas une religion qu'on a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? C'est un Sauveur. Puis il y en a juste un. Ça élimine tous les moyens des hommes. Parce que les moyens des hommes, il n'y a pas de Sauveur, c'est une religion. C'est comme, faites-le vous-même, do it yourself. C'est toi qui dois accomplir ton salut. Mais le Seigneur Jésus, lui, est un sauveur. Il y en a seulement un sauveur qui est mort selon les Écritures, qui a été enseveli, puis qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, c'est le sacrifice de Christ ici qui est en vue. Il dit car, au verset 14, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. D'autres, ce n'est pas ici qui est notre espérance. C'est pour ça que c'est triste de voir des chrétiens qui se confient dans la politique ou dans des hommes politiques pour leur amener un salut ou régler les problèmes. Ce n'est pas là, nous, notre salut. Notre salut, ce n'est pas pour ici. Notre salut, c'est pour l'éternité. Puis, ça règle vraiment la vraie condition qu'on a besoin. Ça règle la situation de notre péché. Mais pour ça qu'il nous a dit aussi qu'il ne devait pas travailler. C'était très important que le jour des expiations, il ne travaille pas. Verset 28 de Lévitique 23, il dit, vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. C'est sûr que les autres, c'était des sabbats aussi, puis ils ne devraient pas faire d'œuvres serviles. Mais ici, dans le jour des expiations, là, c'est répété, c'est vraiment important que quand les choses sont répétées, c'est parce qu'il faut porter attention. Il dit, vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être fait pour vous. Vous savez, quand on travaille, c'est une chose qu'on le fait, mais là, c'est fait pour vous, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Donc, l'expiation devait être faite pour eux. Ce n'est pas eux qui la faisaient. Elle devait être faite pour eux, l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Au verset 30, il dit, toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Voyez-vous comment l'importance là qui est mise sur il ne fallait pas faire d'ouvrage, il ne fallait pas faire de travail parce que ça représentait vraiment le salut par la grâce. Le seul qui travaillait le jour des expiations, c'était le souverain sacrificateur qui lui entrait, il faisait son œuvre le jour des expiations. Puis lui, c'est parce que c'est un type du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus, on sait que le Seigneur Jésus est en même temps l'antitype du souverain sacrificateur, puis aussi du sacrifice. Donc, il est les deux. Il s'est offert lui-même. Le sacrificateur offrait des sacrifices, mais lui, il s'est offert lui-même comme le sacrificateur et en même temps le sacrifice. Mais il y a seulement lui qui lui est permis de travailler. Parce que pour faire l'expiation, c'est le Seigneur Jésus. Nous, on ne peut pas faire aucune œuvre. Ça, c'est le salut par la grâce. Vous savez, c'est tellement clair dans la parole de Dieu que ce n'est point par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la grâce. Puis Dieu fait en sorte que ça soit clair. Parce que ceux qui n'ont pas compris ça, vous savez, il y a des gens qui ont de la difficulté avec le salut par grâce. Ils pensent qu'il faut tout le temps qu'ils fassent quelque chose. Hein? Au moins, il faut que tu fasses quelque chose parce que si tu ne fais pas quelque chose, ce n'est pas assez. C'est comme si le sacrifice de Christ n'est pas suffisant. Vous savez, ça, c'est une insulte à Dieu. Parce que son plan de rédemption, là, il est parfait en tout point. Puis il vient de la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, c'est le salut par grâce. Puis, si on y ajoute des œuvres, c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut être sauvé puis perdu par après. Mais si on est perdu par après, donc, il y a des œuvres d'impliquer. Il faut que je fasse quelque chose pour le garder. On ne peut rien faire pour l'avoir. On ne peut rien faire pour le garder. Et on est sauvé par la grâce de Dieu. On est gardé par la grâce de Dieu. Puis, ça, c'est le vrai salut par la grâce, sans les œuvres, sinon l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Éphésiens 2, 8, 9 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Dans 2 Timothée 1,9 aussi, un très beau verset qui nous dit, il nous a sauvés. Donc c'est lui, c'est Dieu qui nous a sauvés. Il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. C'est tout dans sa grâce, ça vient de lui, l'origine de notre salut vient de Dieu, c'est lui qui en est l'origine. Il dit, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. C'est son plan à lui, selon son dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Même avant que l'homme soit créé, même avant que l'homme ait péché, Dieu avait son plan, c'était par sa grâce, puis il allait lui-même pourvoir. Comme Abraham a dit à Isaac quand il s'en allait sur la montagne pour offrir son fils, il a dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Puis Abraham a dit, Dieu se pourvoira lui-même l'agneau. Dans un sens, on peut regarder ça de deux façons. Dieu va le pourvoir l'agneau, mais Dieu va se pourvoir lui-même comme l'agneau dans la personne de son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne devait faire aucun ouvrage, mais c'était vraiment le pécheur doit se confier entièrement dans l'œuvre accomplie à la croix parfaitement et renoncer à ses propres œuvres. Même la parole de Dieu nous dit que les œuvres qu'on aurait faites avant d'être sauvés, c'est des œuvres mortes. C'est des œuvres qui n'ont aucune valeur devant Dieu. Il n'y aura même pas de récompense, même si j'ai donné de l'aumône aux pauvres, j'ai fait des choses, j'ai aidé mon prochain. Ces choses-là, avant d'être sauvé, c'est un peu comme si on veut travailler pour une compagnie. Pour avoir le salaire à la fin de notre travail, il faut avoir été engagé. Puis c'est pour ça que tu peux aller. Il peut y avoir quelqu'un qui est allé dans une usine puis a travaillé même peut-être mieux que les gens qui étaient dans l'usine, mais il n'a jamais été engagé. Fait que quand le jour de paye arrive, il n'a pas sa paye parce qu'il n'a pas été engagé. C'est la même chose. Nous, c'est par le salut. On n'est pas sauvé par les œuvres. Éphésiens 2, 8, 9 nous dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient point de vous, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais le verset 10 qui est attaché, il nous dit quoi? Il dit, nous sommes son ouvrage. Après qu'on est sauvé, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les autres œuvres, ce n'est pas lui qui les a préparées, mais quand on est sauvé pour les œuvres. Les œuvres ne sont pas pour notre salut, mais sont le résultat de notre salut. Puis Dieu, il a un plan. Ça, c'est merveilleux. Vous savez, mais je regarde en arrière et je me dis, quand j'ai fait le plan de Dieu, là, c'était merveilleux. Quand j'ai fait mon propre plan, non, ça ne vaut pas grand-chose, ça va brûler. Mais quand quand on regarde en arrière, on voit que le Seigneur nous a conduits. Vous savez, on prend des décisions dans notre vie, mais quand on se soumet à la volonté du Seigneur, on s'aperçoit qu'il nous a fait passer dans des endroits, puis il y avait un but. À chaque endroit qu'il nous a fait passer, il y avait un but. Il voulait atteindre un but dans notre vie, puis on a fait son œuvre. C'est merveilleux, ça, quand on se soumet au Seigneur d'avoir fait son œuvre. Mais au jour de. C'est pour ça que c'est pas par les œuvres. Puis au jour des expiations, là, les Israélites, toute la nation, le tiers qui va rester, les autres vont avoir péri, les deux tiers, mais le tiers qui va rester, tout ensemble. Ça va être comme une expérience de salut commune. Avec tout le peuple ensemble qui auront été rassemblés, qui vont avoir été amenés au désert, quand Paul dit, et ainsi tout Israël sera sauvé, eh bien, ils vont tous se repentir. Imaginez-vous, quand tu es un pécheur qui se repent et qui accepte le Seigneur, c'est merveilleux. Hein? Je me souviens de Régent Joly, il disait ça, il dit, c'est comme si on voit le Saint-Esprit rentrer en nous. Puis, c'est une expérience merveilleuse de voir quelqu'un être sauvé, puis là, tu le regardes aller, puis tu dis, waouh! Tout un changement, puis l'Esprit de Dieu qui fait son travail en lui. Mais imaginez-vous quand toute une nation, d'un même coup, va se repentir, puis qui va recevoir le salut de Dieu. Ça va être un réveil extraordinaire, là. Ça va être tellement merveilleux, là. Mais le jour des expiations, tout le reste d'Israël, il va se repentir nationalement, en tant que groupe devant Dieu. On va aller dans Zacharie au chapitre 12. dans Zacharie au chapitre 12. Ça va être un jour merveilleux pour Israël, mais imaginez-vous pour ceux qui vont voir, si on voit un pécheur qui s'est repenti, puis qu'on voit un changement dans sa vie, imaginez-vous quand on va voir une nation, puis c'est vrai que c'est sûr qu'on aime Israël parce que c'est le peuple de Dieu, mais c'est un peuple au courant d'Israël. Vous savez, c'est des pécheurs, sont pas en communion avec Dieu, sont pas, dans un sens, sont pas mieux que le reste du monde, là. Mais quand ils vont se convertir, ça va faire un changement extraordinaire dans cette nation-là. Ça va être merveilleux. Mais on ne veut pas être antisémitique, là, parce que c'est le peuple que Dieu a choisi, puis il y a un but pour eux autres. Puis les haïr, c'est joindre les rangs de Satan, parce que lui, il les haït. Mais nous, on les aime, mais pas à cause qu'ils sont aimables. Comme le Seigneur nous aime, pas parce qu'on est aimable, mais il nous aime parce qu'il est amour. Puis nous autres, on les aime parce que à cause de l'amour du Seigneur pour eux autres. Mais dans Zacharie, au chapitre 12, au verset 10 à 14, regardez la repentance ici. Alors je répandrai, à ce moment-là, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Voyez-vous la repentance ici d'Israël? Ils pleureront amèrement sur lui. Là, ils vont vraiment humilier leur âme devant le Seigneur. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Shimei séparément et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Voyez-vous la repentance nationale d'Israël? Très, ça c'est vraiment merveilleux, là. Et vous savez, on va voir ça, nous autres. On va voir ça sûrement du ciel quand on va être avec le Seigneur, parce qu'à ce moment-là, on va être dans la présence du Seigneur. On va avoir été enlevé, on se rappelle, avec après l'intervalle, il y a la moisson, l'Église est enlevée, puis là, on commence les trois dernières fêtes, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles. Mais ça va être grand de voir finalement Israël se repentir devant son Dieu, reconnaître son besoin de salut, reconnaître que lorsque Christ est mort sur la croix, il est mort pour leur péché. Puis là, ils vont être purifiés à ce moment-là. Dans cette repentance-là, la repentance amène au salut. Tristesse du nom de Dieu qui mène à la repentance. Et cette repentance-là, ils vont tourner les regards vers lui. Regardez au chapitre 13 de Zacharie, versets 1 et 2. En ce jour-là, dans leur jour de repentance, le jour des expiations, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Et vous, le Seigneur va faire une purification. C'est merveilleux. Vous savez, quand on reconnaît notre péché devant le Seigneur, puis qu'on se repent, là, ben, on ne serait jamais sauvé s'il n'y avait pas une source pour nous purifier. Mais il y a une source, c'est le sang précieux de Christ qui nous purifie. Puis pour Israël, à ce moment-là, là, il va y avoir une source ouverte. L'abondance de la grâce de Dieu. Une source tellement abondante qu'ils vont toutes être purifiées. Toute la nation va être purifiée en même temps par cette source ouverte-là. Pour la maison de David, puis les habitants de Jérusalem, pour le péché, puis pour l'impureté. Ça, c'est. Mais comment qu'a pu être cette source-là? C'est là qu'ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Voyez-vous, dans Zacharie, au chapitre 13, au verset 7, il dit: Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Donc, c'est parce que le berger a été frappé. Le Seigneur Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais il dit qu'il connaît ses brebis. Puis il dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là. Ça, c'est nous autres qui nous a rassemblés. Mais il va rassembler aussi les brebis de sa bergerie. Puis ils vont reconnaître que leur berger a été frappé pour eux. Ça, c'est comme le chant qu'on chante, hein? Roc séculaire frappé pour moi. Ça, c'est la source qui va être ouverte là. C'est qu'ils vont reconnaître que celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont crié, crucifie-le, crucifie-le, eh bien, c'était la seule source de salut pour eux. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient un Messie qui les délivrerait politiquement de leurs ennemis. Mais ils vont reconnaître dans ce moment-là que leur plus grand ennemi, c'était pas Rome, mais c'était le péché dans leur cœur. Puis que c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert lui-même pour ouvrir cette source-là, cette grande source-là qui va être suffisante, qui va être abondante pour les purifier tous de leur iniquité, puis ils vont être maintenant réconciliés avec Dieu. C'est tellement merveilleux. Mais vous savez, ça devient excitant de regarder ces choses-là, puis on ne peut pas faire autrement que donner louange à Dieu, donner la gloire à Dieu pour un si grand salut. Hein. Comme Paul, quand on a vu là, dans Romains 11, on va terminer avec cette doxologie-là de Paul. Doxologie, ça veut dire, ça vient de deux mots, doxa puis logie. Doxa, c'est donner la gloire, puis logie, c'est des paroles. Donc, c'est des paroles qui donnent la gloire à Dieu. Dans Romains 11, au verset 33, il dit: Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses voies, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Puis à ce moment-là, ils vont être émerveillés devant les voies de Dieu, puis les nations aussi, puis nous autres aussi. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? On peut la connaître quand il nous la révèle. Puis il dit, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, c'est des grandes choses. C'est des grandes choses. Puis le Seigneur est vraiment merveilleux. Donc, je m'arrête là, puis je donne un temps pour si vous avez des commentaires, puis ou si vous avez des questions. On va prendre un temps jusqu'à 8 heures pour ce temps-là. Donc, je vous laisse la parole.
J'ai un verset que je pourrais peut-être lire
Oui.
ensemble. C'est Jean 4, verset 23. Tu sais, on est tellement heureux, comme tu dis, je vois ta joie. Nous autres aussi, on est tous dans la joie. Puis, tu sais, c'est écrit, fait que Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Tu sais, le Père, c'est ça qu'il demande.
Ouais.
Les adorateurs en esprit, en vérité. Puis c'est rien que par la grâce qu'on peut voir ça. Fait que je voulais partager mon bonheur avec toi, Gérald, avec tous tes frères. C'est ce que
Merci
je
beaucoup.
voulais dire.
Merci beaucoup. C'est merveilleux.
Aussi, Gérald, j'aurais une question.
OK.
Dans Zacharie, qu'est-ce que ça veut dire quand on lit, on le lit dans Zacharie au verset 12, au chapitre 12, on lit, mettons, bon, la famille de la maison de David séparément et les femmes à part. Qu'est-ce que ça veut dire et les femmes à part?
Ben, je pense que si, même si ça va être toute la nation, ben, il fait attention pour dire que chaque individu de cette nation-là vont tous être. C'est pas juste comme, vous savez, avant ça, dans l'Église catholique, des fois, ils faisaient des confessions communes, là, ils donnaient l'absolution à tout le groupe sans les passer un par un dans le confessionnal. Mais c'est que même si Dieu va agir avec toute la nation en même temps, mais chaque individu va être impliqué de cœur. Chaque individu va vivre pleinement cette repentance-là, puis cette purification-là. Donc, c'est pas comme il y en a qui vont être, ils vont en recevoir un petit peu, puis d'autres moins. C'est complet, là. Mais je pense que quand on regarde la famille de David, puis la famille de Nathan, puis la famille de Lévi, il y a sûrement une raison pour nommer ces noms-là, là, David, Nathan, Lévi, puis Shimei, mais c'est pas, il rajoute par après toutes les autres familles. Donc, il n'y a aucune exception. Il n'y a personne. Là, ça va être un salut. C'est pour ça qu'il dit, et ainsi tout Israël sera sauvé. Mais comme on a dit, c'est le tiers. parce que les deux autres tiers vont avoir péri parce qu'ils vont avoir suivi la bête. Mais le tiers qui aura, il va les amener au désert, il va les amener à l'humiliation. L'humiliation, puis là, il va parler à leur cœur. Mais même si c'est un, si c'est quelque chose de global, chaque individu est touché par le. Tu sais, quand on parle, comme des fois, on dit, ben, c'est les hommes. Non, non, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde, ils vont être inclus, puis ils vont participer à part entière dans cette humiliation-là et aussi dans cette restauration-là, dans cette purification-là.
Merci, merci Gérald.
Moi, je me posais la question par rapport aux 144 000 de l'Apocalypse. Il faudrait peut-être que je relise l'Apocalypse, mais c'est quoi le rapport par rapport à la repentance, aux souffrances du peuple juif à ce moment-là, puis la repentance, ça va-t-il avoir lieu, la souffrance va-t-il avoir lieu avant que les 144 000 apparaissent, puis la repentance va-t-il avoir lieu avant ou après? Que les
Mais les, 5,
144 000 apparaissent.
les 144 000, c'est des témoins pour, le Dieu, pour Dieu. Les autres, ils vont témoigner de Dieu dans la tribulation.
Ouais.
Parce qu'on sait que si il va y avoir des grandes souffrances, il va y avoir de la confusion, il va y avoir de l'égarement, mais il va y avoir un message clair. Puis les 144 000, d'un côté, leur message, il va porter fruit là, dans cette humiliation-là là, du peuple. Parce que ce n'est pas tout le peuple, c'est 144 000. Donc, c'est un échantillon, 12 000 de chaque tribu d'Israël. Mais ces 12 000-là, ces 144 000-là, ils témoignent au peuple, puis ils vont participer. Leur message, il va porter fruit ici. Là. Quand on prêche l'Évangile, quand on prêche, c'est pour voir du fruit. Mais les autres, c'est ça, ils vont témoigner pour Dieu. Puis le peuple va les entendre. Mais comme j'ai dit, il y en a les deux tiers qui vont suivre la bête, pareil. Il va y avoir des avertissements, là. Mais un tiers qui ne suivra pas la bête, ils vont être persécutés. Leur message s'adresse aussi aux Juifs, mais s'adresse aussi aux nations, là. Il y a aussi un ange, on va voir ça. Il y a des anges aussi qui proclament des choses, comme l'ange qui proclame un évangile éternel, puis tout ça, là. Les deux témoins aussi.
Donc,
Merci.
les un tiers qui vont pas fléchir, là, et eux autres, ils n'ont pas rapport avec les 144 000.
Non, les 144 000, les autres, leur ministère, c'est de proclamer, là, ce sont des témoins pour Dieu, puis ils sont scellés, ils ne peuvent pas mourir durant la tribulation, parce qu'on les voit au chapitre 7, puis quand on les revoit au chapitre 14, ils sont encore 144 000, il n'y en manque pas un. Hein? Parce que Dieu les a scellés comme des témoins à cause de l'égarement dans la tribulation. Dieu va avoir un témoignage fidèle quand même, dans sa grâce encore. Dieu est toujours. Ils disent que c'est l'œuvre étrange de Dieu de juger. Mais il se doit, à cause de sa sainteté, mais toujours dans le jugement, il donne une opportunité. Si, là, l'épreuve va être grande, mais le témoignage va être grand aussi. Puis même les nations qui vont entrer dans le millénium, le message des 144 000 va les avoir atteints aussi. C'est ce qui va empêcher les gens. Il y en a qui vont recevoir ce témoignage-là, puis il va les empêcher de prendre la marque de la bête. Parce qu'on a dit, comme on a dit dans l'Apocalypse, quand ils prennent la marque de la bête, ils scellent leur perdition éternelle. On est pas mal arrivé à l'heure, je crois. Peut-être qu'on va terminer par un mot de prière. S'il y en a qui veulent discuter encore après, on pourra le faire. Mais ceux qui doivent partir, comme notre frère Gilles est parti, on comprend que des fois, il y a des gens, il faut qu'ils partent. C'est qu'on va, on va terminer par un mot de prière. Puis la Rivière-du-Loup aussi, eux, ils font leur réunion de prière après. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier encore une fois des grandes choses que tu nous enseignes dans ta parole. Seigneur, quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Tu es tellement merveilleux. Tu es un Dieu si grand, si merveilleux, un Dieu qui nous aime. Oui, un Dieu qu'on a offensé et dont on mérite un jugement éternel. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu as fait des grandes choses pour nous, jusqu'à envoyer ton Fils, ton bien-aimé, mourir sur la croix pour nos péchés. Merci pour cette source ouverte, Seigneur. Puis merci aussi même pour les épreuves, comme on chante des fois. Je vais te rendre grâce pour toutes les épreuves. Elles purifient ma foi et me façonnent à toi. Mais aussi l'épreuve, Seigneur, qui nous amène, qui nous a amenés à la repentance pour pouvoir jouir de ton salut. On t'en rend grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.